marche du monde.
La création doit avant tout étonner, gêner, surprendre, faire parler, et ensuite, dans 2 ans, être copié. C'est là l'essentiel de la création.
Merci Pierre Cardin. Pour la première fois, un siècle d'histoire de la haute couture française est retracé à Paris grâce aux collections du musée Galliera. Vous découvrez des gants du soir signés Schiaparelli, ornés de faux ongles dorés, une robe de Mademoiselle Chanel en crêpe de soie bleu foncé et ses paillettes, ou encore une voluptueuse tenue du soir Balenciaga en gazard d'Abraham rose pâle et ses plumes d'autruche.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Autant d'extravagance imaginée la plupart du temps par des garçons. Charles Frédéric Worth est le premier d'entre eux. Et d'ailleurs, j'ai vérifié dans le catalogue de l'exposition dirigée par Olivier Saillard, sur 76 maisons de haute couture, moins de 20 ont été créées par des femmes. Comment l'expliquez-vous, Alexandre Sanson, vous qui avez préparé cette expo aux côtés d'Olivier Saillard, vous qui êtes responsable justement des recherches au Palais Galliera?
Il y a cette dichotomie très souvent placé entre effectivement la mode créée par les hommes et la mode créée par les femmes. C'est vraiment une affaire de décennies, c'est très surprenant. En 1931, il y avait par exemple 80 maisons de couture, dont plus de la moitié dirigées par des femmes. Dans les années 20 également. C'est vraiment une affaire de décennies, où on passe dans les années 10 avec la prédominance des hommes, années 20-30 les années folles par les femmes, puis après, années 50-60, par les hommes. Et on revient comme ça, ce sont des aléas constants, des allers-retours. C'est effectivement quelque chose dû au hasard, mais aussi dû à l'impulsion de femmes fortes, et avec véritablement un souci de création. Dans les années 30, on pense immédiatement à Madeleine Vionnet, on pense à Chanel, on pense à Alix qui deviendra Madame Gray, on pense à Jeanne Paquin, une maison donc créée au 19e siècle et qui continue encore dans les années 30. Toutes ces femmes qui ont une impulsion, et surtout, au-dessus de toutes, dans les années 30 en tout cas, Jeanne Lanvin, une maison qui existe encore.
Suite de la marche du monde consacrée à l'histoire de la haute couture, une histoire dont les plus belles pages sont écrites dans les années 60, la génération des Courage, des Paco Rabanne et des Cardin prennent le pouvoir et Jacques Chancel, notre intervieweur préféré, demande justement à Pierre Cardin.
Couturier, est-ce que c'est un métier d'homme ?
Oui, sûrement. C'est un métier très très dur à mon échelle. C'est un métier d'homme car le couturier de maintenant n'est plus du tout la couturière, n'est-ce pas ? C'est tout à fait autre chose. Il doit se renouveler, il doit porter dans l'industrie du monde entier la possibilité de commercialiser continuellement l'industrie, c'est-à-dire de la modifier, d'apporter dans le magasin un pouvoir d'achat en modifiant l'aspect. C'est très 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 important, contrairement à ce que l'on peut croire. Un couturier, je crois que c'est le seul homme qui a le pouvoir magnétique de changer la rue en 5 ans. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de transformer le physique du monde entier seulement à travers un croquis de robe. Et ça c'est fabuleux parce que je ne pense pas qu'il y ait un autre métier qui ait cette puissance.
Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis.
C'est une mode décontractée pour l'automne et l'hiver prochain. Préférence du jersey pour le jour, avec les jupes au mollet. Les manteaux maxi sur pantalons assortis, les combinaisons pantalons, les pantalons courts, les jupes culottes à la gaucho et les robes d'après-midi s'arrêtant au mollet ou aux chevilles.
C'est moi, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc.
Pierre Cardin, créateur et néanmoins homme d'affaires interplanétaire, revient sur la naissance de sa vocation.
Je ne savais pas ce que c'était qu'un couturier. Pour moi, ça représentait un métier insolite, enfin un métier qui était comme un mot, comme tous les mots chez les enfants. Et j'ai cru à cela. Il s'est trouvé que ma carrière ensuite s'est dirigée autrement. Après avoir fait quelques études, j'ai pensé que je pouvais être un couturier. Et à 17 ans, j'ai appris ce métier, car je savais dessiner, mais je voulais avant tout prouver que le dessin était une chose essentielle peut-être, mais que pouvoir donner des ordres pour plus tard, c'est-à-dire pouvoir diriger et commander, il fallait connaître pratiquement toute la gamme du métier. Et la gamme du métier d'un couturier tel que je l'imaginais demain n'était pas un couturier tel que pouvait s'imaginer le monde de Paris à travers des gens comme Poiret ou d'autres qui vivaient leur temps sur des canapés ou qui avaient des ordres à donner, qui vivaient une vie de prélat, une vie à mon avis qui n'est plus la vie d'aujourd'hui, car je voulais donner beaucoup plus de noblesse à ce métier-là. Je voulais prouver qu'un couturier n'était pas un petit efféminé qui jouait au chiffon. C'était un élément de grande industrie qui pouvait bien au contraire diriger le monde entier de l'industrie. Et c'est là où justement, à travers cette ambition et cette idée que je m'étais faite étant tout jeune homme, j'ai voulu prouver qu'un couturier devait être considéré comme un égal d'un très grand créateur et plus comme étant l'indispensable de l'industrie moderne.
Tandis que Pierre-Henri crée sa messe pour le temps présent, pour le ballet du XXe siècle de Maurice Béjart, c'est le Festival d'Avignon 1967, la robe cible, toute de cercles concentriques de Cardin, fait le tour du monde. Une robe sans manches, Alexandre Samson, elle est coupée court, juste au-dessus du genou, et vous la présentez dans votre exposition.
C'est un chef-d'œuvre de coupe, cette robe. C'est véritablement le savoir-faire haute couture lié au pop art et à l'op art. Pierre Cardin a découpé un rond noir, puis après deux cercles qu'il a incrustés dans une robe. C'est-à-dire qu'il ne les a pas plaqués sur la robe. Il a découpé la robe en forme de rond, puis a incrusté ces cercles, les a tous cousus ensemble. Pour ceux et celles qui savent maîtriser une machine à coudre et qui ont déjà relié un jour deux morceaux de tissu avec un fil, c'est carrément virtuose.
Un Pierre Cardin qui d'ailleurs, deux ans avant 68, était déjà descendu dans la rue où il avait présenter une collection. Alors, on se pose la question, est-ce que les créateurs de mode, comme les musiciens d'ailleurs, annoncent en quelque sorte un 68 étudiant que personne à l'époque ne soupçonne ?
Ils sont le reflet d'un air du temps.
Ils précèdent l'air du temps, non ?
Est-ce qu'ils précèdent ? Non, vu que l'air, c'est dans l'air. L'air n'arrive pas comme ça à une date qui est 68. On sent véritablement les choses venir. Les choses viennent des femmes, les choses viennent des mentalités, en tout cas. En ce qui concerne la mini-jupe, vous l'avez bien dit avant, on la trouve en Angleterre à partir des débuts des années 60. Qui l'a inventée ? Ça, encore une fois, c'est un grand débat. On dit Marie Quant en Angleterre, mais en même temps, Courrèges propose déjà des ensembles très très courts. La jupe se rallonge, le pantalon arrive. C'est une libération qui est là, qui est en marche, et ça, bien avant 68. Et c'est quelque chose, en tout cas, que les couturiers ressentent, car ils sont très sensibles. Ce sont des antennes qui doivent ressentir ce que les femmes sentent, que les clientes veulent, ce que les nouveaux types de clientes, les femmes issues du baby boom, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, veulent dans une nouvelle sorte de mentalité. Si vous voulez.
Alors, vous l'avez dit, Alexandre Samson, la révolution s'opère dans la mode à ce moment-là avec ce prêt-à-porter. On passe du sur-mesure à la multiplication d'un modèle standard, mais en même temps, le nombre de maisons de mode se réduit comme peau de chagrin. On est à peine à 17 maisons à ce moment-là.
Mais beaucoup plus de maisons de prêt-à-porter. Et le prêt-à-porter évolue véritablement ces années sous l'impulsion notamment de Kenzo dans les années 70, qui lui véritablement instaure un nouveau type de création. Alors oui, c'est du prêt-à-porter, mais ça, il instaure ce qu'on appelle un prêt-à-porter de luxe, c'est-à-dire initiant un nouveau type de création qui aurait pu être celui de la couture, mais qui ne l'est pas, mais qui est appliqué au prêt-à-porter. Et ça, c'est ce que veulent les femmes au final.
Alors, est-ce que Paco Rabanne est le plus influent à l'époque ? Et à quoi reconnaît-on le style Paco Rabanne ?
Alors, Paco Rabanne n'est pas le plus influent de l'époque. Il se partage le gâteau avec Yves Saint Laurent, Courrèges et Cardin. Ce sont véritablement les noms qui pèsent dans les années 60. Il se livre à une guerre sans merci entre eux. Paco Rabanne, en tout cas, se toupait d'avoir créé une robe à partir de matériaux complètement nouveaux, en tout cas pour un vêtement, c'est-à-dire le métal. Il crée une robe entièrement en côte de maille métallique que portera Brigitte Bardot, dont nous possédons un exemplaire et que nous montrons dans cette exposition Paris Haute Couture. Mais il n'utilise pas que le métal, il utilise le plastique, aussi également le verre, beaucoup. Bref, des matériaux inattendus.
J'aimerais plexiglas, ça plisse pas, ça tient aux places. C'est transparent, c'est comme la glace. Ça glisse pas quand on s'enlace. Ça reste fixe de toutes faces. J'aimerais une robe en plexiglas. Si c'est pas flexible, je m'embarrasse. Si c'est rigide, ça fera cuirasse. Pour qu'on s'y glisse, faut de l'audace. Ça reste fixe de toutes faces. J'aimerais une robe en plexiglas. Ça froisse pas quand on la passe. Ça bruisse pas, c'est comme l'espace. C'est translucide, c'est tout silence. On peut toucher sans conséquence. J'aimerais une robe.
La robe en plexiglas, une chanson dont les paroles ont été écrites par une actrice qu'on a complètement oubliée, Julie Saget. Et puis la fin des années 60, ce sont aussi les premières boutiques de prêt-à-porter Courrèges. Nous le retrouvons dans le journal de 13h de Yves Mourousi. Nous sommes en 1969.
Ben, je pense que c'est difficile d'avoir comme programme de vouloir habiller sur un plan international autant la femme de Los Angeles que celle de Tokyo si on n'en comprend pas sa manière de vivre. Pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est d'essayer de voir ce qui se passe autour de moi, et essayer de voir les gens vivre, et puis ça me permet comme ça de retomber sur terre et de les habiller.
André Courage, quelque chose m'a paru surprenant dans votre collection et j'ai les photos devant moi là. Vous faites porter à la femme de l'hiver 1969-70 des grosses moufles, c'est pas pratique.
Ben, c'est un côté toujours insolite et gai. C'est fait sur un plan artisanal et ça allait avec ce qu'elle portait sur la tête et je trouvais ça assez drôle au milieu de nos tissus synthétiques de remettre un peu ce travail de la main qui a quand même beaucoup de fraîcheur et beaucoup de naïveté et qui est très frais.
Ces moufles sont en quoi ? En laine ?
En grosse laine.
En grosse laine.
Elles sont tricotées par une équipe de bonnes sœurs et rien que pour ça, ça me fait plaisir.
Vous avez du travail aux bonnes sœurs pour vos collections ?
Eh oui, c'est d'ailleurs, c'est difficile.
Est-ce qu'elles donnent leurs avis ?
Dans ma famille, dans chez moi, on s'expatrie beaucoup. J'ai deux tantes qui sont sœurs et l'une est venue un jour me dire « C'est pas possible que ça soit toi qui aies fait des mini-jupes. »
Pourquoi cette suppression du soutien-gorge dont nous a beaucoup parlé Christiane Paulfort hier ?
Imaginez un peu, vous voyez des femmes actuelles avec des corsets, mais c'est exactement pareil. On n'a pas besoin plus de se soutenir la poitrine que de se soutenir la taille. Tout ça, c'est des questions de mode et puis c'est des faux problèmes.
Oui. Cela limite quand même vos acheteuses, car il y en a un certain nombre.
Oui, mais mon rôle, c'est pas de travailler sur ce qui existe. Mon rôle est de penser peut-être à ce qui va se faire.
Oui.
RFI, la marche du monde, Valérie Niblon.
Après Audrey Hepburn et Catherine Deneuve, les années 2000 voient apparaître une nouvelle muse de la haute couture pour le dernier né des enfants terribles de la mode, Jean-Paul Gaultier.
Le festival attend toujours encore la star des stars, Madonna. Elle est annoncée pour aujourd'hui, ou peut-être demain. Eva Bétan, qui veut tout savoir, a demandé à son couturier préféré, Jean-Paul Gaultier, quelle robe va porter Madonna lundi.
Je sais pas parce que j'en ai fait 5. Alors elle va choisir laquelle. À mon avis, ce serait une qui serait lumineuse, pailletée, avec plein de fleurs et tout. Je pense. Mais maintenant, elle est brune.
Comment est-ce qu'on prépare une robe pour Madonna ? On a une démarche particulière quand on pense à Madonna ?
Ah ben, quand on la connaît un petit peu, oui. Et quand on l'aime bien, oui. Aussitôt, on voit plein d'images. Parce qu'elle évoque plein d'images. Elle-même, c'est plusieurs personnages. Elle évoque plein d'images. Et en plus de ça, en plus, elle sait ce qu'elle veut. Alors en même temps, c'est un dialogue, je veux dire. C'est pas simplement un travail d'un côté. C'est un travail avec elle. C'est-à-dire qu'elle exprime ce qu'elle aimerait avoir, ce qu'elle aimerait porter. C'est un peu ce dont elle a envie. Et puis moi, je lui fais des propositions. Et puis voilà. Donc c'est un échange, une réelle collaboration. Donc c'est très excitant. So slowly, slowly, time goes by,
so slowly, slowly, time goes by. Mais comment Jean-Paul Gaultier est-il devenu couturier ? Il se raconte au micro de Yves Calvi sur France Inter.
Donc je voyais les photos, surtout dans les magazines, que je n'avais pas beaucoup de moyens, donc quelques-uns que je volais d'ailleurs, des magazines de mode.
Vous voliez
les collections.
Elle et Marie-Claire et les collections.
Les collections haute couture, c'est-à-dire, c'était l'officiel de la couture, exactement. Et donc je voyais là les différents couturiers. Donc à l'époque, il y avait Cardin et Courrèges, qui a fait une vraie révolution et tout. Mais mon attirance, et celui qui me fascinait déjà le plus, c'était Saint-Laurent. Pourquoi ? Parce qu'il était différent. C'est-à-dire qu'il présentait une mode qui était à la fois rigoureuse, stricte et sévère, mais en même temps très audacieuse, très fascinante, et donnant un goût que je ressentais très inconsciemment, déjà du danger et de ce qui est défendu. Et je trouvais ça très troublant.
Ce que vous me dites là, c'est... Alors, vous y avez réfléchi, parce que... Pardonnez-moi, mais vous avez une quinzaine d'années à l'époque.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, je le ressentais, je me rendais pas compte. Cette analyse, je la fais maintenant, si vous voulez.
Mais vous diriez quoi? C'était super élégant et en même temps, on se rendait bien compte que c'était autre chose qu'élégant. C'est ça?
Autre chose qu'élégant et très différent. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs un peu plus précisément après, lorsque j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire que j'ai envoyé mes croquis. Évidemment à Saint-Laurent, mais aux autres couturiers, parce que je connaissais personne et tout, donc j'ai envoyé bêtement mes croquis. Et il se trouve que c'est Cardin qui m'a répondu, comme quoi il m'a fait venir, et j'ai commencé à travailler chez lui le jour de mes 18 ans. Mais Saint-Laurent, j'ai reçu une réponse assez rapide d'ailleurs, comme quoi, il faisait lui-même toutes ses collections, qu'il n'avait pas vraiment d'assistant créatif, entre guillemets, on va dire.
Madame, monsieur, bonsoir. L'événement du jour n'est ni un fait divers, ni politique, ni sportif, il est artistique. Yves Saint-Laurent est un grand couturier, ça c'est une évidence. Il est également un industriel qui exporte toute une gamme de produits made in France dans le monde entier. Il est l'un des quelques noms français connus internationalement et il n'y en a pas beaucoup. Mais il a su rester un créateur et la collection automne-hiver 88 qu'il a présentée aujourd'hui même a époustouflé véritablement les spectateurs. Yoba Grégoire.
En crêpe de soie ou en satin drapé qui rappelle la grande période des stars d'Hollywood.
Là, oui, là le dernier, c'est sublime, sublime, sublime. The last one is my
favorite. Chez Saint Laurent, encore une fois, la plénitude de son travail. Ce n'est plus de la couture, mais des œuvres d'art. Les broderies sont exécutées par François Lesage, notre brodeur unique et international. 6000 heures de travail pour toutes ces merveilles.
Yves Saint-Laurent inspire Jean-Paul Gaultier, mais Jean-Paul Gaultier s'inspire également de la rue.
C'est vrai que moi j'ai mis le vrai perfecto, revu et corrigé par moi. C'est-à-dire que mes modèles, quelquefois, d'inspiration ne sont pas automatiquement des femmes du monde ou des femmes qui s'habillent. Enfin, ça l'a même jamais été, parce qu'en fin de compte, ce oui. qu'elles portent comme robes et tout, ce sont des robes superbes et tout, mais quelquefois, ou quelquefois des horreurs, d'ailleurs, faut bien le dire, c'est pas inspirant, si vous voulez, parce que c'est déjà là, voilà. Donc, ce qui est mieux, pour moi, et plus intéressant, c'est de s'inspirer justement tout à fait autre chose, ou quelquefois des gens même qui s'habillent mal. Quelquefois, ça peut être une base de justement ce mal, comment le faire. Parce que, un traumatisme que j'ai eu quand même, quand j'ai travaillé, mettons, chez Jean Patou, c'est que là-bas, il y avait plus personne à la tête, il y avait simplement Monsieur Michel Goma, mais la maison de couture n'existait plus. Il n'y avait plus qu'une seule cliente et tout, c'était pas comme Saint-Laurent, vous voyez. Eh bien, il y avait les vendeuses qui, elles, à partir du moment où c'était doré et beige, c'était le summum du chic. Alors, ça pouvait être une vieille chaussette ou une chose immonde, du moment que c'était ça, vous voyez. Des codes comme ça ridiculés à chaque fois, ça m'a choqué. Je me trouvais que, quelquefois, dans des matières pas nobles, il peut y avoir une grande beauté.
La mode est dans la marche du monde, dans les oreilles de notre invité Alexandre Sanson pour l'exposition Paris Haute Couture. Alors dites-moi Alexandre Sanson, au début de cette émission, on évoquait Chanel, on évoquait des couturiers qui au début du siècle se considéraient à l'égal des artistes avec des créations sur mesure, des tissus d'exception, des broderies, des pierres précieuses. Après un siècle de mode et le déclin de la haute couture au fond, qu'est-ce qui reste? Est-ce que les règles sont toujours aussi drastiques? Est-ce qu'une robe chez Gaultier, c'est toujours 200 heures de travail et au moins 20 personnes? Expliquez-nous.
Pour le cas de Jean-Paul Gaultier, effectivement, qui a ouvert sa maison de prêt-à-porter au tout début des années 80, il ne se lance dans la couture qu'en 1997. Ça, c'est très important de le signaler. Avec une première collection qui a véritablement marqué les esprits, tant elle était exubérante et tant elle réveillait véritablement la haute couture, il a pu adhérer à la haute couture grâce à fait, un allègement du système de la chambre syndicale qui lui a permis de rentrer, c'est-à-dire moins de modèles exigés, moins de clientes exigées, moins de chiffres d'affaires exigés. Il a pu entrer grâce à ça.
Et aujourd'hui, une maison de haute couture, ce n'est plus qu'une vitrine finalement pour d'autres produits. Est-ce que c'est encore rentable?
C'est, pour être honnête, peu rentable, dans le sens où la société aujourd'hui exige une rentabilité qui n'est plus celle véritablement en adéquation avec la haute couture. Mais les gens font là aussi de la haute couture, les créateurs, des jeunes aussi s'y mettent beaucoup. Je pense notamment à la créatrice Bouchra Jarrar qui aimerait défiler bientôt en haute couture, mais qui a en tout cas le mérite de créer des robes avec une perfection technique et une perfection des matériaux très très chers. Elle les prend dans les meilleures manufactures du monde. Effectivement, ça a un coût énorme, mais c'est la satisfaction d'une passion qui est celle de la création.
On l'a dit, peu d'élus, à peine 20 maisons de couture aujourd'hui sur la place de Paris et très peu de femmes. La dernière, vous venez d'en citer une, et une des dernières à avoir rejoint le club très fermé des maisons de haute couture, c'est Adeline André.
Déjà samedi, Torrente donne le ton, mousseline légère, broderie de fleurs sur le satin des fourreaux, portée par des mannequins enfin souriantes, Charlotte de l'agence Femme.
Le sourire, je crois que c'est très important. Ça habille aussi. Bientôt ce sera le rire, carrément. Le faux rire peut-être.
Chez Adeline André, la sérénité, l'intimité des georgettes de soie, des cotons jasmin, grande simplicité, pas d'extravagance, un travail insoupçonnable au regard. L'effet est voulu par Adeline André.
Je voulais revenir comme ça à des silhouettes très légères. Donc il faut que tout ça soit vraiment très fluide à la fin, parce qu'il faut qu'on ne sente pas du tout le travail toujours. Il faut que ça reste comme des fleurs qui passent et que ça soit très fragile. C'est comme ça que c'est le plus beau.
Au premier rang, Jeanne Moreau applaudit, ravie.
C'est apparemment modeste, c'est exceptionnel. C'est très simple et très complexe. C'est un mélange de fluidité et de force. Il y a un mélange de matériaux, de couleurs. C'est en dehors de la mode.
Comment faut-il imaginer justement les créations d'Adeline André ? Est-ce qu'elle revisite Chanel d'une certaine façon ?
Davantage Madeleine Vionnet. Et c'est un hommage qu'on a voulu lui rendre, ainsi qu'à Madeleine Vionnet, dans
Pourquoi
l'exposition Paris Haute Couture. Parce que lorsqu'on regarde une robe Adeline André, c'est véritablement, alors souvent du crêpe georgette, donc c'était un crêpe très très souple, très très fluide. Nous présentons notamment une robe à dos décapotable, jaune poussin. C'est évidemment une intellectualisation du vêtement dans ce qu'il a de plus simple, si vous voulez. Cette robe, c'est une simple robe chemise très longue, mais dont la coupe est très sophistiquée lorsqu'on s'y connaît un peu, lorsqu'on la regarde de très très près. Et c'est quelque chose qu'elle partage avec Madeleine Vionnet. C'est une somme très très fière de posséder des robes Adeline André dans les collections.
Et nous allons maintenant faire plus ample connaissance avec le petit dernier de la famille.
Quand on fait des vêtements, on a l'impression qu'on l'a inventé. Et en réalité, pas du tout. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui l'a fait avant, mais d'une autre façon.
Azzedine Alaïa, il a créé sa maison de haute couture en 2011, un rêve d'adolescent.
J'ai appris à coudre parce que de l'école primaire, au lieu d'aller en secondaire, j'étais chez Madame Pinault et je voyais que les entrées en classe, il y a tel lycée, l'école des Beaux-Arts, tel jour l'examen d'entrée à l'école des Beaux-Arts. C'est une chose que j'ai entendu parler de Madame Pinault, elle était très amie avec le directeur de l'école. Je demande à Madame Pinault de m'inscrire. J'avais 15 ans, et peut-être un mois, même pas. Et normalement, à partir de 16 ans, l'école des Beaux-Arts, à cette époque, 16 ans. Et elle avait dit au directeur, c'est moi qui l'ai mis au monde. Et vous savez très bien, les Arabes, ils mettent n'importe quelle date. Cet enfant, je sais qu'il a 17 ans. Donc elle m'a ajouté 2 ans sur 20. Et me voilà inscrit pour l'examen. Je passe l'examen, admis. Et on était peut-être moi et une amie, Latifa Ben Abdallah, qui était avec moi ce jour de l'examen. Et on était peut-être 3 des musulmans tunisiens acceptés à ce concours. Le reste, c'est des petites françaises bien pomponnées, tout ça. Et ça me plaisait. Je disais que c'est le pied, ça. La mode, elle devient intéressante quand elle l'est mêlée avec les artistes. Et quand on voit toutes les périodes, parce qu'à part les Chanel, ils étaient avec tous les artistes, Picasso, Dali, Cocteau, Bérard, tout ça, ça a fait un mouvement important. Certains vêtements, ils sont vraiment comme des objets. Non, il y a des musées qui sont bien pour la mode, mais c'est les musées qui sont fermés à la mode.
Le pavé dans la mare d'Azzedine Alaïa, ce sont les musées qui sont fermés à la mode. Qu'en pensez-vous, Alexandre Sanson, du musée de la mode Palais Galliérin ?
Eh bien, j'en pense que fin septembre prochain, nous ouvrons une grande rétrospective consacrée à Azzedine Alaïa.
Ça, c'est une réponse. Il considère clairement, Alaïa, que les grands couturiers sont du côté des artistes contemporains. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Alaïa, c'est un ovni dans l'histoire de la mode. Vous avez dit qu'il ouvrait sa maison de couture en 2011, alors qu'il a commencé avec la couture en 64, pour une clientèle très privée, d'une petite maison. C'est un parcours exceptionnel que personne ne peut atteindre, parce qu'il est plein de mystères, en fait. Et c'est ça qui fait une création incroyable. En tout cas, ça reste le maître absolu de la coupe.
Azzedine Alaïa, lui aussi, s'amuse, entre autres en la personne de Grace Jones. Et d'ailleurs, dans l'exposition que vous mettez en scène à l'Hôtel de Ville, une robe me fascine. Elle est blanche, longiligne, c'est la robe à bandes issue de la collection personnelle d'Azzedine Alaïa, toute de jersey et de lycra. Est-ce que c'est la créature du XXIe siècle ?
Oui, dans le sens où c'est la nouvelle gaine. C'est la gaine moderne. Cette robe, elle date du printemps été 90. Elle est entièrement en bandelette. C'est une des créations d'Azine Alaïa qui s'est inspirée des momies, et ce, dès 1983, à ce sujet-là. C'est un tenseur, cette robe. Toute femme qui la porte se voit comme si elle portait un gigantesque bas de contention, excusez-moi de vous le dire, en tout cas, quelque chose qui la serre et qui place les formes, parce qu'il a placé les bandelettes de telle manière que la silhouette, lorsque la femme le portera, sera parfaite et harmonieuse.
Alors vous avez parlé de momie, hein, c'est vous qui l'avez dit. Est-ce que la mort de la haute couture est annoncée, et est-ce que ce déclin de la haute couture nous dit quelque chose sur ce nouveau siècle, le numéro 21, pour parler comme Mademoiselle Chanel?
Pour l'instant, c'est un petit peu s'avancer que parler de la mort de la haute couture. Je ne suis pas certain qu'elle mourra tant qu'il y aura des personnes pour la défendre et pour avoir la passion de la continuer.
Comme Alaïa,
mais aussi beaucoup d'autres. Je pense à tous ces ateliers, ce savoir-faire qui est uniquement parisien et qu'elle en a vraiment voulu rendre hommage. Paris est un centre de production artisanale exceptionnel dans le monde.
Avec des métiers exceptionnels. Citez-nous les noms des métiers.
Le Sage pour la broderie, qui est une des plus grandes maisons. On a Rébé, on a Le Marié pour les plumes, L'Oignon pour les plissés. Ce sont toutes ces maisons qui ont un savoir-faire secret. On a vraiment peur qu'ils se perdent avec l'histoire. Et la haute couture est là pour le montrer qu'à Paris, on continue à la faire. Même si on perd de l'argent, parce que la beauté demeure.
Merci Alexandre Sanson. Paris Haute Couture, c'est jusqu'au 6 juillet à l'Hôtel de Ville de Paris et c'est gratuit. La Marche du Monde spéciale mode était cousue main par Sophie Janin avec les archives de l'INA. Vos réactions sont les bienvenues, marche.monde@rfi.fr. Exprimez-vous sur la page Facebook de l'émission, podcastez cette émission, c'est la vôtre.